Radio Okapi, regard sur l'actualité de la semaine.
Bonjour et bienvenue dans votre émission de Radio Okapi intitulée Regard sur l'actualité de la semaine. Ravi de vous retrouver encore ce matin. Nous rappelons que chaque samedi à partir de 7h25, heure de Kinshasa, nous vous proposons de passer en revue les faits qui ont marqué l'actualité de la semaine en cours. Avec nos invités, nous essaierons de comprendre en quoi ces faits sont importants et quelles peuvent être leurs conséquences sur la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, pour justement passer en revue l'actualité de la semaine, nous recevons M. Marcel Ngoy, il est journaliste et éditeur du journal La Prospérité, publié à Kinshasa. Bonjour M. Marcel Ngoy.
Oui, merci. Publié à Kinshasa et vendu à créer à Kinshasa en province.
Merci beaucoup. Franck Fouamba, fondateur et directeur général de la revue Mining News. Il est fondateur de l'ONG Ressources Naturelles pour le Développement. Il est aussi co-donateur de la campagne Touche pas à mon cobalt. Il intervient depuis Lubumbashi. Bonjour Franck Fouamba.
Bonjour Guy. Bonjour aux auditeurs de Radio Capi.
Et en ligne depuis Dakar, capitale du Sénégal, Ibou Diouf, journaliste à la télévision Futur Média du groupe Futur Média émettant de Dakar. Je précise que le groupe Futur Média appartient à l'artiste et musicien sénégalais Youssou N'Dour. Bonjour Ibou Diouf.
Bonjour mon cher Guy, et ravi d'être parmi vous. Et bonjour également à tous les auditeurs de Radio Capi.
Merci à tout de suite pour la rétrospective de 7 jours d'actualité. Mesdames et messieurs, vous écoutez Regard sur l'actualité de la semaine, l'émission qui passe en revue l'actualité qui a compté au cours de 7 derniers jours de la semaine.
Si vous avez manqué une édition du journal en français et en langue nationale de Radio Okapi, ou encore la chronique coronavirus et le journal de sport, vous pouvez appeler gratuitement le service 42-502 en utilisant un numéro Vodacom. Les appels sont gratuits. Composez les 42-502 et choisissez le menu de Radio Okapi en appuyant sur 3 après le message de bienvenue. N'oubliez pas, les appels sont gratuits en utilisant un numéro Vodacom. Radio Okapi, encore plus proche de vous pour mieux vous servir.
Nous sommes dans Regard sur l'actualité de la semaine. Je rappelle que cette émission connaît la participation de Marcel Ngoy, journaliste et éditeur du journal La Prospérité, publié à Kinshasa. Franck Fouamba, fondateur et directeur général de la revue Mining News. Il est fondateur de l'ONG Ressources Naturelles pour le Développement. Il est aussi coordonnateur de la campagne Touche pas à mon cobalt. Il intervient depuis Lubumbashi. Et en ligne depuis Dakar, capitale du Sénégal, Ibou Diouf, journaliste à la télévision Futur Média du groupe Futur Média émettant de Dakar. Nous allons commencer cette émission par un commentaire sur la Journée internationale des droits de l'enfant célébrée chaque 20 novembre. C'était le dimanche dernier. Selon l'UNICEF, 244 millions d'enfants de 6 à 18 ans n'ont pas étudié en 2022. Plus de 40%, soit 98 millions d'entre eux, vivent en Afrique subsaharienne. Notamment au Nigeria, 20,2 millions ou en Éthiopie, 10,5 millions. C'est le cas également de la République démocratique du Congo qui compte environ 5,5 millions d'enfants et des jeunes non scolarisés et du Kenya 1,8 million. Marcel Ngoy, quelle analyse vous faites de la situation de l'enfant aujourd'hui en RDC?
Oui, une situation très triste. Vous savez que le guerre auquel le Congo est confronté dans l'Est oblige les populations à se déplacer et ces populations ont des enfants derrière, des enfants qui transportent en bandoulière. Et nous pensons que les souffrances auxquelles ces populations sont livrées, si vous regardez aujourd'hui les morsures de serpents et de mollusques, des populations qui sont livrées, qui sont obligées de consommer l'eau de cruche et qui serpentent les montagnes du Kivu, dans la souffrance la plus indicible, nous pensons que cette situation est dramatique et qu'il faudra à un moment donné que même les groupes armés, qui d'une manière ou d'une autre sont animés par des humains, doivent comprendre que la situation des enfants ne doit pas être sacrifiée sur l'autel des intérêts égoïstes. Nous considérons que la situation de l'enfant est une situation préoccupante, autant que les questions des femmes et des populations vulnérables. Donc il faudra que, dans ce qui se passe là, dans ce qui se trame, que nous ne puissions pas oublier que l'enfant, c'est le devenir de la nation, et qu'il faudra que demain, que ces enfants-là soient protégés. La situation là, telle qu'elle est donnée, elle est macabre. Elle me fait penser à beaucoup de choses, des sacrifices que nous nous endurons, que même les générations d'avenir vont continuer à endurer tant qu'on n'aura pas conjuré cette crise protéiforme qui continue à détruire le pays et à endeuiller le pays continuellement.
Merci Franck Fouamba. S'il n'y a plus d'enfants soldats au sein des FRDC, les groupes armés, eux, continuent d'utiliser les enfants dans leurs milices, mais aussi, c'est un secret des polichinelles. Hein. Beaucoup d'enfants sont utilisés dans les carrières des mines en RDC avec cette exploitation artisanale. Et Franck Fouamba, peut-on dire que la RDC a encore beaucoup de choses à faire dans la promotion des droits de l'enfant?
Merci Guy, merci aux confrères qui sont intervenus et qui vont intervenir. Disons que le problème des enfants dans les mines, principalement dans la partie est où ils sont utilisés par les groupes armés, ces enfants-là sont utilisés par l'industrie de la mafia, des utilisateurs des minerais qui sont à l'est. Parce que quand nous prenons les provinces du Katanga et du Kasaï, où il y a aussi l'exploitation artisanale des minerais, vous allez vous rendre compte que le gouvernement, avec ses partenaires ou les parties prenantes, dont la société civile à laquelle je fais partie, à laquelle vous faites partie aussi à la Radio Capital, vous faites un travail remarquable dans la sensibilisation ainsi que d'autres médias, vous trouverez que le gouvernement, la société civile, l'industrie minière et les acheteurs ou les utilisateurs finaux des minerais qui sont exploités dans le Katanga et dans le Kasaï, dont le diamant, le cuivre et le cobalt, fournissent beaucoup d'efforts afin qu'il n'y ait plus des enfants dans les mines. Et dans la partie est, le gouvernement de la République, ayant souscrit à différents principes internationaux, dont le principe de l'OCDE, ayant une politique au niveau de la CIRGL et au niveau de l'Union minière africaine, n'a jamais soutenu ce que nous appelons les minerais de sang. Parce que les minerais de sang ne sont pas seulement les minerais qui sont produits par les gens qui ont les armes, ce sont aussi les minerais qui sont produits par les enfants qui se sacrifient et qui tuent leur avenir. Ce qui se passe à l'Est, comme je le dis et je le répète, ce n'est pas le problème du gouvernement congolais, c'est plutôt le problème des sponsors de la mafia qui est en train de se faire là-bas. Cette mafia-là se retrouve et elle est entretenue par les entreprises occidentales qui sont installées au Rwanda, en Ouganda et dans d'autres pays qui utilisent ou qui bénéficient des minerais dont ils savent que l'origine ce sont les enfants qui ont les armes. Cher Gu, la RDC ne produit pas les armes et notre armée ne peut pas prendre les armes, donner les enfants parce que vous avez dit que dans les FRDC, il n'y a plus d'enfants et le pays se bat pour qu'il n'y ait plus un enfant qui soit hors école. On voit la politique du gouvernement de la scolarité qui a été vraiment promis par le président Tshisekedi, son gouvernement, où il faut les saluer, saluer aussi les efforts du ministre Mwaba, c'est que chaque enfant parte à l'école. Et là, j'interpelle, je profite de la tribune de Radio Okapi pour interpeller les multinationales comme Tesla, comme Microsoft, comme HP, comme les autres, qui bénéficient des minerais de l'Est, qui sachent que Bill Gates a des enfants, qui sachent que les enfants congolais ne sont pas moindres que ses enfants, que Tesla, que Elon Musk sachent que les enfants congolais ne sont pas moins que ses enfants, et que HP, tous ces gens qui utilisent General Motors, Ford et les autres, qui utilisent les minerais de l'Est dans les batteries électriques ou dans l'industrie électronique, sachent que les enfants congolais, si on leur donne la même chance, ils seraient peut-être meilleurs qu'eux-mêmes. Et que cette industrie-là, qu'on sait c'est de l'hypocrisie qui est à l'Est, ça doit s'arrêter. Parce que comme mon confrère venait de le dire, après tout à l'Est, on est en train de tuer l'avenir de la RDC, on est en train d'abrutir les jeunes, on est en train de les exposer à la mort, afin que demain, le Congo n'ait pas un avenir. Et ça, nous devons tous les dénoncer.
Franck Fouamba, c'est vrai que vous avez fustigé les comportements de ces multinationales, mais on ne doit pas dédouaner l'État congolais qui a les devoirs et l'obligation, n'est-ce pas, de protéger ses enfants.
Cher Gu, je répète, j'ai pris l'exemple. Vous savez, les enfants qui sont dans les groupes armés à l'Est, et comme vous avez dit, ils sont dans les carrières artisanales. Je prends la province de l'Est. Le Katanga, c'est le sud-est. C'est la grande région où on produit mondialement du cobalt. Et aujourd'hui, vous n'allez pas trouver un enfant avec une arme dans une mine du Katanga. La première chose. Tous ceux qui disent, par exemple, qu'au Katanga, il y a les enfants dans les mines, nous les mettons à défi. Nous leur disons, citez-nous le nom de la mine où on trouve les enfants. ne prenez pas des images. D'ailleurs, vous les recyclez. Ne prenez pas des images. Il y a des dizaines d'années, vous les recyclez et vous nous dites qu'il y a des enfants dans les mines. Je dédouane le gouvernement congolais par rapport à ce qui est en train de se faire à l'Est. Nous ne défendons pas le gouvernement. Nous défendons les efforts que le gouvernement fournit pour que les enfants partent à l'école. Personnellement, et la société civile, là où nous avons une forme avec le gouvernement, c'est que nous disons au gouvernement d'améliorer davantage les salaires des enseignants.
Merci.
Et d'améliorer davantage les infrastructures.
Merci.
Parce que, je vais finir par là. Je finis, Guy, donnez-moi une minute, je finis. Quand vous prenez le sud de Katanga, vous prenez le haut où est le Kibali Gold Mine, vous allez trouver que là où le gouvernement ne fait pas des choses, il y a ce partenaire minier qui font des choses pour qu'il y ait l'éducation et une éducation améliorée. Et nous nous disons que s'il n'y avait pas ces bandits, s'il n'y avait pas cette mafia entretenue par les multinationales à l'Est, il y aurait de l'ordre, le gouvernement et ses partenaires se mettraient à exploiter industriellement les minéraux en ordre et l'éducation serait améliorée.
Merci.
On ne dédouane pas le gouvernement, mais nous disons que dans l'état de guerre, on cherche à restaurer la paix et non pas à construire une école, parce qu'on ne peut pas construire une école pendant qu'il y a les bombes qui tombent sous les habitations, sous les enfants qui doivent aller à des écoles.
Merci Franck Fouamba. Ibou Diouf, sur le 244 millions d'enfants non scolarisés dans le monde, 98 millions sont en Afrique subsaharienne. Ajoutez à cela la maltraitance que subissent beaucoup d'enfants en Afrique à cause notamment de l'insécurité, de la situation socio-économique. Peut-on dire que les États africains n'ont pas fait assez pour, n'est-ce pas, promouvoir les droits des enfants?
Permettez d'abord, M. Guy, de dire bonjour à mes confrères qui ont très bien intervenu. Je pense que c'est une question très complexe. Pourquoi? Tout simplement, on sait que les États africains, tant bien que mal, essayent de prendre en charge cette question très importante. Mais j'ose dire que, par exemple, la demande est très forte. Par exemple, quand on prend les pays de l'Afrique subsaharienne, la plupart de ces nations n'ont pas pris en compte un certain nombre de considérations. Une sorte de boom démographique qu'on a constaté un peu partout ces 10 dernières années, ce qui fait que la planification qui avait été initiée d'emblée et qui forcément n'a pas été revue a causé beaucoup de manquements dans beaucoup de pays. Je m'explique, parce que tout simplement, les États africains, dans la majeure partie, n'ont pas pris en considération cet aspect démographique et du coup, tout les retombe dessus. C'est une question à la fois complexe, je l'ai dit tout à l'heure, et qui mérite encore une fois beaucoup de considération. Les États africains ont, pour la plupart, ont essayé de trouver des solutions avec l'appui parfois des partenaires, mais j'ose dire qu'il reste beaucoup de choses à faire de part et d'autre. Et si l'on sait la place qu'occupe aujourd'hui l'enseignement ou bien l'éducation de façon générale pour cette tranche de la population, j'avoue que ces États gagneraient peut-être à investir davantage dans ce secteur pour prendre en compte les besoins en termes d'éducation et de formation de ces enfants. Et quand vous prenez par exemple certains pays qui sont en situation de guerre, là, ça devient plus complexe, parce que dès que le déplacement est constaté, dès que un certain nombre d'établissements scolaires deviennent infréquentables, du coup, ça devient plus difficile à gérer. D'autant plus que, comme je l'ai dit tout à l'heure, le boom démographique est là, donc il faudra encore revoir ces planifications, même si dans certains pays, on peut dire que certains ont connu beaucoup de succès. Mais beaucoup reste à faire, mon cher Guy.
Merci, Ibou Diouf. On va prendre une petite pause. Lui a interpellé sur les dangers qui guettent nos enfants dans nos sociétés. C'est Jean Goubal Kalala. On l'écoute dans Baï Bingaï Boumana et on revient tout de suite après.
Baye kolisi ngai peko kuma. Mala kisinga ikaka seko bumai Bumwanu ya masano natondite Makabulinga na baninga susite Oseku saibinga bumwana e Malgresa panikite koswana Siroko bitumba nukindike Asale la bisolo kona bukiye Dume toyo mobosi nini yango oya kondima e oya ye mwana asekana na moto la guerre commencé oyo bisa tolima kujukuju ya lio tote makila bato e osoku bayibinga po mwana e malgré ça batiki te koswana biroko bitumba zokindike salela litoloko na bufi yeme yoyo nakende kelasi mpona nini ngai te bokolo na makasi esimbi na ngo ngai te na bloka lefumalade elongo na bakamarade le corbo elorenar ata na mwarenda nabeta nitendo nabeta mwa jizo nateta mwa ndika natekana na maika nabuka madame sansima babenjame natekana na kibu na modela malibu yoyoyoyo nakende kelasi ara motema pasi ekoye docil eske kozala pasi nakabola mikate nasala mpelipate kukulu elombe.
Jean Goubal Kalala, c'est un artiste musicien congolais, guitariste et chanteur à travers ses chansons. Il interpelle sur la nécessité de promouvoir les droits fondamentaux de l'enfant. On revient sur l'actualité de la semaine, situation sécuritaire au Nord Kivu. Un accord de cessez-le-feu a été signé mercredi à Luanda, en Angola, à l'issue des mini-sommets réunissant les chefs d'État de l'Angola, de la RDC, du Burundi et l'ancien président kenyan Uhuru Kenyatta. Le Rwanda était représenté par son ministre des Affaires étrangères. L'accord prévoit notamment un cessez-le-feu dès le 25 novembre à 18h, le retrait du 1-23 jusqu'à ses positions initiales, la cessation de tout soutien aux groupes armés M23 FDLR, ainsi que la reprise du dialogue entre le Rwanda et la RDC devant mener à la normalisation des relations diplomatiques. Le M23 est appelé également à se désarmer et à se cantonner d'ici une semaine en territoire congolais sous le contrôle de l'armée congolaise de la force régionale en collaboration avec la MONUSCO. Selon le communiqué final, si le M23 refuse de se désengager, les chefs d'État de l'EAC instruiront la force régionale à faire usage de la force pour les pousser à se soumettre. Marcel Ngoï, journaliste et éditeur du journal La Prospérité, publié à Kinshasa, le 1-23 n'a pas tardé, n'est-ce pas, à réagir à cette feuille de route de Luanda. Il dit que pour n'avoir pas été consulté, il ne se sent pas concerné par cet accord. Et des sources crédibles sur le terrain rapportent qu'il n'y a aucun indice, n'est-ce pas, d'un possible retrait du 1-23. Ces rebelles continuent plutôt à affronter les FRDC avec des effectifs additionnels. Donc, ils renforcent leur position. Quelle lecture vous faites de cette attitude du M23 après la signature de cet accord de Luanda, Marcel Ngoï?
Non, le M23 est une, je pouvais dire, une fiction. C'est une création, en fait. Donc, c'est un instrument qui a été utilisé autant que d'autres groupes armés pour faire asseoir l'idée qu'il faut qu'il y ait une instabilité dans l'Est qui permettrait aux groupes, aux multinationales et aux entreprises, aux puissances, superpuissances, en transitant par les voisins, pour pouvoir faire main basse sur les richesses congolaises. Et donc, si aujourd'hui, même l'accord parle de cesser le feu, le cesser le feu suppose même qu'il y ait une sorte de belligérance, c'est-à-dire qu'il y a des armées régulières d'un pays vis-à-vis d'un autre pour qu'on puisse parler même de tout ça. Ça veut dire que dans cet accord, il y a des choses sur lesquelles nous pouvons nous attarder. Mais ce que je considère, moi, est que l'M23 ne peut pas, en ce stade, s'avouer vaincu. Parce qu'en fait, les objectifs recherchés par l'M23, c'est poursuivre la politique de l'infiltration du Congo via des discussions. C'est-à-dire qu'il faut retrouver la table de discussion, appliquer les anciens accords signés sous Kabila, sous les CNDP, peut-être quoi, avec l'M23 lui-même, et puis plus tard, retrouver les mêmes gens qui ont tué, pillé, écumé les pans entiers du territoire, les retrouver dans l'armée et dans les structures étatiques. C'est ça l'objectif visé. Alors, dans cette démarche-là, vous ne pouvez pas avoir d'M23 une attitude des gens qui se laissent faire. Moi, je pense que cette attitude qu'ils développent, c'est l'attitude qui répond le mieux à leurs objectifs qui consistent à affecter le Congo. Ce qu'il faut, c'est contraindre l'M23 à le rechercher jusqu'à à le pousser à leur dernier retranchement, détruire, pulvériser l'M23. C'est ça qu'il faut faire. Nous pensons que compter sur les autres, ce n'est pas mauvais, mais on doit compter sur nous-mêmes. Il faut absolument que le Congo, au-delà de la force militaire régionale, que le Congo aille en tant qu'État, en tant que nation, une armée nationale, réellement restructurée, forte, disciplinée, engagée. Les saluts dans ça. Deuxièmement, les saluts par rapport au M23, qui n'est pas l'unique groupe armé. Il y en a plusieurs groupes armés. Aujourd'hui, on peut discuter avec le M23, on aura demain le Mundu 40, on aura demain les Mai Mai Yakotumba, on peut avoir d'autres structures. Vous savez que dans l'Ituri, nous avons la Codeco. Nous avions, il n'y a pas longtemps, on a eu les Zénielé à l'époque dans l'Équateur. Il y a aussi aujourd'hui la situation commune. Donc, pratiquement, je considère que le combat ici, ce n'est pas un combat qui doit être livré seulement contre le M23, même si aujourd'hui, demain, il se retire, pas, il ne peut pas se dire. Le combat, c'est d'avoir chez nous une armée capable, une armée dissuasive, capable d'imposer la paix. Et la pression du peuple congolais aujourd'hui manifestée à travers tout ce qu'il y a comme marche pacifique, meeting populaire, réappropriation de la cause congolaise, dont le président a parlé du haut de la tribune des Nations Unies, moi je pense que c'est un processus qui est continu. Parce qu'en fait, l'échec vis-à-vis de M23, l'échec dans cette guerre signifierait sacrifier des générations futures. Ça signifie qu'il y aurait aussi la continuité du pillage des ressources de la RDC. Ça signifierait aussi, d'une manière ou d'une autre, la continuité d'avoir un État dont les frontières seront toujours poreuses et qui permettra à n'importe qui de venir en villégiature au Congo pour s'enrichir. Et donc, nous, il nous faut de notre côté ici repenser nos politiques. J'ai toujours dit ça. Il faut absolument que vis-à-vis de M23, on ait une attitude des répressions, une habitude des représailles. Donc, l'usage de la force ne doit souffrir d'aucun atermoiement. Il faut absolument qu'on ait une puissance de feu, qu'on puisse continuer à traquer le M23, s'il ne veut pas exécuter.
Merci.
Nous pensons que la collaboration des autres États permettrait que le M23, même là, le Rwanda, qui a signé, même si Kagame est absent, nous pensons que son ministre qui l'a représenté, même s'il y a un minimum d'hypocrisie, le ministre doit s'être engagé. Et donc, avec le concours de tous, il faut que le M23, autant que tous les autres groupes armés, soit repoussé jusqu'à leur dernier retranchement.
Merci Marcel Ngoy. Franck Fouamba, vous êtes fondateur et directeur général de la revue Mining News. Vous êtes fondateur de l'ONG Ressources Naturelles pour le Développement. Vous êtes aussi coordonnateur de la campagne Touche pas à mon cobalt. Vous intervenez depuis Lubumbashi. Même si le M23 s'est conformé à cette feuille de route, il y a quand même beaucoup d'ambiguïté dans cet accord. Hein. L'accord prévoit notamment le retrait du M23 jusqu'à ses positions initiales. Qu'est-ce que vous entendez par se retirer jusqu'à ses positions initiales?
Merci Guy. D'abord à propos de l'accord, parmi les signataires de l'accord, il y a eu deux personnes qui ont été sincères. Les autres sont des hypocrites. Le président Tshisekedi a été sincère parce qu'il veut de la paix à l'Est. Il est peiné que la population du pays dont il a les dessinés entre les mains soit tuée depuis des années. Et on le sent. Son parti, l'UDPS, a toujours prêché la non-violence. L'autre personne sincère, c'est le président honoraire Uhuru Kenyatta, qui veut, quand il a visité Kibumba et les autres partis, quand il était au Nord Kivu, nous avons les vidéos où il a dit non, écoutez, les Congolais, on vient vous opposer, mettez-vous ensemble. Et comme vous avez dit, cet accord-là se moque des Congolais. Il y a deux personnes sincères, les autres sont des hypocrites. Le président angolais ne peut pas accepter de faire la chose qu'il demande aux Congolais de faire avec les rebelles Kabinde. Le président burundais ne peut pas accepter de faire ce qu'il veut que le Congo fasse, la RDC plutôt, fasse avec les rebelles, pas les rebelles, avec les terroristes. Il ne peut pas le faire avec les Red Tabara et les autres. C'est-à-dire qu'on se retrouve dans une situation où tous les pays, les voisins de l'Est, trouvent qu'ils doivent venir en villégiature, comme Marcel le disait, et ça doit finir. Et comme vous avez dit, le retour aux positions initiales du M23, ça veut dire retour dans les camps où ils étaient au Rwanda ou en Ouganda, après avoir été défait en 2013. Parce que tout le monde est d'accord qu'en 2013, le M23 a été défait. Leur armement était détruit. Et c'était un mouvement, ils avaient même fait un communiqué pour dire que désormais, ils vont se battre politiquement pour défendre leurs intérêts. Et le M23, là, comme Marcel a dit, le M23 n'existe pas. C'est juste un groupe d'aventuriers de l'Est. Vous savez, allez dans les pays voisins, enquêtez, vous allez découvrir que depuis que le président Tshisekedi a pris des mesures à l'Est, en instaurant l'état d'urgence,
il y a des pays voisins qui ont les difficultés à payer leurs fonctionnaires et les gens chez eux. Ils les payent maintenant avec le retard de 2 ou 3 mois. Et c'est alors que le M23 a eu des armes. Comment est-ce qu'un mouvement, les gens qui avaient fui des faits qui se sont retrouvés, qui ont même déclaré qu'ils ne sont plus un mouvement armé, se retrouvent aujourd'hui sur le sol congolais avec les armes plus sophistiquées que même celles des Nations Unies? Alors, pour nous les Congolais, c'est que ces gens-là retournent en Ouganda, au Rwanda, Dieu et tous les éditeurs de Radio Okapi. Le M23 est taxé par tout le monde du mouvement terroriste. Quel est le sort réservé au mouvement terroriste? On ne négocie pas avec les mouvements terroristes. Il y a un sort réservé au mouvement terroriste dans tous les pays du monde, en commençant par les États-Unis, la France qui sont un grand pays. Comment la France traite les terroristes? Comment les États-Unis traitent les terroristes? Comment la Grande-Bretagne traite les terroristes? Ce sont des gens, on les arrête, on les met dans un cachot, ou bien là où ils sont là, on va et comme Marcel a dit, c'est le feu qui parle. Mais ici, on nous impose, on impose à notre gouvernement de discuter avec les terroristes. Si les M23 sont des Congolais, comme M. Kagame est en train de le dire, ou les autres sont en train de le dire, nous nous soulevons 2 points. Tout Congolais qui prend les armes contre sa nation est un traître. Et notre loi est claire sur le sort qu'il mérite. Le M23, comme Marcel a dit, c'est une fabrication, une illusion qui n'existe pas. On doit y mettre fin.
Merci, merci Boudiouf. Vous êtes journaliste à la télévision Futur Média, du groupe Futur Média émettant de Dakar. Quelles sont les marges de manœuvre que peut détenir la communauté des États de l'Afrique de l'Est au cas où le M23 refuse, n'est-ce pas, de respecter cet accord? Déjà, ces mouvements rebelles ont réagi en précisant qu'ils ne se sentent pas liés par cet accord. Et à votre avis, c'est quoi les marges de manœuvre que peut détenir le EAC pour, n'est-ce pas, gérer cette question au cas où le M23 ne respecte pas cette feuille de route?
Justement, Monsieur Gu, j'aimerais tout simplement rappeler un fait. Est-ce que moi, depuis Dakar, je suis de très près l'actualité internationale, en l'occurrence ce qui se passe dans l'est de la RDC. Et j'aime souvent rappeler, quand on essaie de contextualiser, faisons peut-être appel à l'accord politique qui a mis fin à l'occupation de Goma par les M23. J'avoue qu'à l'époque, il y avait un certain nombre de mesures et de propositions qui ont été annoncées et que beaucoup d'autorités avaient même défendu, à savoir comment est-ce qu'on pourrait faire à l'époque pour ces combattants du M23 qu'on puisse les intégrer soit dans des organisations ou bien dans l'armée. Je pense que ça n'a pas été fait, sinon ça n'a pas été réussi. S'agissant maintenant de cette mission ou bien de la position que ce soit l'Union africaine ou bien les autres institutions du continent. Je pense qu'aujourd'hui, il ne s'agit pas d'attendre que le feu soit là pour intervenir. Je pense que ces autorités suivent de près ce qui se passe et je pense que dans les jours à venir, ils vont pouvoir réagir. Généralement, quand il s'agit de ce contexte, les autorités réagissent rapidement. On a parlé tout à l'heure d'un mini-sommet qui malheureusement n'a pas porté les fruits. Puisque quand l'une des parties se dit qu'elle n'a pas été concernée par les différentes décisions, je pense qu'il y a un problème. Généralement, l'histoire nous a montré que l'Union africaine, il faut le dire, réussit généralement pour intervenir dans ce genre de situation, mais le plus important, c'est de réagir et attendre. On a souvent des forces qui sont déplacées pour intervenir quand il s'agit de situations assez chaotiques. Moi, je pense qu'il ne faudrait pas attendre que la situation s'empire. Le chaos est déjà là et pour intervenir. Je pense qu'aujourd'hui, l'Union africaine va intervenir rapidement pour essayer de trouver la racine du mal et peut-être aider les deux parties, je peux dire belligérants, à s'asseoir autour d'une table et de discuter de différents points peut-être qui font que les négociations clochent à chaque fois. Donc je pense que le gouvernement de la RDC, depuis le magistère de Joseph Kabila, essaie de trouver des solutions, mais ça cloche. Et généralement, la position aujourd'hui de l'Angola ou bien du Rwanda, peut-être l'Angola est plus acceptée que l'autre pays que je viens de citer. Peut-être c'est lié à des questions historiques, Mais je pense qu'aujourd'hui, le plus important est de faire appel à la communauté internationale pour qu'elle réagisse le plus rapidement possible parce que déjà, la situation est très compliquée.
Ibou Diouf, il y a cette dimension qu'il faut prendre en compte, c'est les bons rapports qui existent entre les pays qui doivent constituer cette force régionale et le Rwanda. Et on sait que ces pays, la plupart de ces pays, n'est-ce pas, ont des bons rapports, des bonnes relations avec le Rwanda. Et vous ne pensez pas que cela puisse constituer un obstacle quand il faudra lever l'option d'utiliser la force contre les M23 si ces mouvements refusaient de respecter cet accord?
Généralement, avec le peu d'expérience que j'ai eu à suivre souvent l'actualité internationale, je vois rarement l'usage de force ou bien la force à travers, cette entre guillemets, je peux parler de menace, mais bon, je pense que c'est pas la solution. Aujourd'hui, le plus urgent, c'est de s'asseoir autour d'une table, essayer de voir là où ça cloche, puisque après tout, c'est tous des Congolais, comme mon confrère l'a dit tout à l'heure, qui méritent aujourd'hui d'être pris en considération. Il s'agit d'une compréhension qu'il faudrait essayer de trouver la racine des mal. Et maintenant, si on sent que forcément il y aura une incompréhension au sein de ces pays qui sont appelés peut-être à composer cette force, il faudra impérativement discuter pour vraiment mettre sur pied un dispositif qui va permettre à cette population de l'être vraiment de sortir de cette situation.
Merci, chères auditrices et chers auditeurs. L'actualité en RDC, c'est aussi l'actualité musicale. Nous allons écouter cette nouveauté d'Engali Garvey en featuring avec Koffi Olomide, Amour. Et on revient après.
On va le faire Jean Fasson, Opa, Gaga,
Charity,
Gaga,
Monica,
Bogos Zilone.
Yoko kibe koye isanga kondinga kanga ikubungi sa jume nanga yoko kibe kosa la semblant de ti tout va bien potele ki sa jume malamu yoko kibe koye isanga wame tu me punk akulu ba tu me manko si tu koma koki kose la tola la Olobi tama eta na tona muka to bosa na mabeto sali lelo.
Joconde, Kalifi, Lili, Bidasa. Yes, son papa.
Yoponi no konyo kolunga. Ma méchanceté, charité, t'es mina vers une direction. Aïe, aïe, mon dili, ma mouni, t'es la limouna.
Trahi ma caca, mes chupons.
En embuscade, le boss des boss, le mur des lamentations.
Primaire, ma caca. Silence, gentilly, Goubila, Baka.
Bonjour, nous revenons dans cette émission Regard sur l'actualité de la semaine. Je rappelle que chaque samedi, à partir de 7h25, heure de Kinshasa, nous vous proposons de passer en revue les faits qui ont marqué l'actualité de la semaine en cours avec nos invités. Nous essayons de comprendre en quoi ces faits sont importants et quelles peuvent être leurs conséquences sur la RDC. Dans la première partie de ce magazine, nous avons fait un commentaire sur la Journée internationale des droits de l'enfant, célébrée chaque 20 novembre, donc le dimanche dernier. Nous avons également analysé l'accord de cessez-le-feu signé à Luanda mercredi dernier au sujet du M23. Participe à cette émission Marcel Ngoïlé, journaliste et éditeur du journal La Prospérité, publié à Kinshasa. Franck Fouamba, fondateur et directeur général de la revue Mining News. Il est fondateur de l'ONG Ressources Naturelles pour le Développement et aussi coordonnateur de la campagne Touche pas à mon cobalt. Il intervient depuis Lubumbashi. Et en ligne depuis Dakar, capitale du Sénégal, Ibou Diouf, journaliste à la télévision Futur Média du groupe Futur Média émettant de Dakar. Un autre fait d'actualité de cette semaine, c'est la clôture de la COP 27. Les participants à la COP 27 ont signé dimanche 20 novembre dernier l'accord sur l'établissement d'un mécanisme d'indemnisation des pays vulnérables et ayant subi des pertes et dommages à la suite des catastrophes climatiques. Un accord signé après des jours d'intenses négociations entre les parties à Sharm el-Sheikh en Égypte. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a salué la signature de ce document qui, selon lui, est un signal fort. Cette COP a fait un pas important vers la justice. Je salue la décision de créer ces fonds pour des pertes et dommages et de les rendre opérationnels dans la période à venir. Il a assuré que les Nations Unies soutiendraient à chaque étape le processus de cette indemnisation. Marcel Ngoï, accord sur l'établissement des mécanismes d'indemnisation des pays vulnérables, les pays du Sud s'en félicitent. Encore qu'il faille bien définir, n'est-ce pas, ces mécanismes d'indemnisation de manière à ce que, quand ces fonds seront disponibles, que cela profite effectivement à tous les pays victimes, mais aussi que ces pays canalisent ces fonds vers le financement des projets visant à préserver l'environnement. Marcel Ngoï.
Nous pensons que le Congo est une puissance énergétique. Il a été démontré si souvent dans des discussions que nous avons des tourbières et que nous avons l'écologie, les ressources nécessaires pouvant participer à ce qu'on appelle aujourd'hui les transferts énergétiques. Et donc, en tant que tel, nous avons été présentés là-bas comme un pays solution. Un accord a été signé, des discussions chaudes ont eu lieu en Égypte. Ce qui est important pour le gouvernement congolais, c'est de savoir qu'est-ce que nous en tirons, nous, en tant que Congo. On dit que non, nous comptons parmi les pays qui ne sont pas des pays pollueurs. Il faudra que le pays pollueur puisse, n'est-ce pas, tenir compte des pays qui subissent les effets pervers de leur pollution. Et donc, dans ce contexte-là, il faut que nous puissions avoir, nous, les équipements, les capacités, n'est-ce pas, de rendre visible ce qu'on peut tirer de ces accords-là. Et sinon, nous irons toujours comme en promenade où nous signons des accords multiples et en fin de compte, le Congo n'a rien. Parce que dans cette situation qui ressemble bien à une discussion de haut niveau, parce que ce n'est pas facile de comprendre ce que signifie le changement climatique, ce n'est pas aussi facile de comprendre ce que signifie le changement, aujourd'hui l'abandon des énergies fossiles pour aller vers des énergies renouvelables, mais c'est aussi important aujourd'hui d'avoir des experts, d'aligner des capacités, des experts dont la compétence nécessaire pour comprendre les enjeux du leur. Donc pour moi, je salue la signature de cet accord, même si par ailleurs je n'ai pas les termes concrets de ce qu'on peut tirer de là. Il n'y a pas de chiffres dans cet accord dans lequel on pouvait dire non, telle année, le Congo tirera autant. Moi, je crois que c'est une sorte d'opacité voulue par les superpuissances pour qu'on parle en termes de promesses, d'engagement encore des États et de l'ONU à pouvoir contribuer sans pour autant avancer des chiffres précis. Ce qui est important pour le Congo et pour l'Afrique et même pour le monde, c'est qu'aujourd'hui, il ne faudra pas que le changement climatique puisse avoir un effet d'emballement sur l'humanité tout entière. Parce que le changement climatique suppose aujourd'hui, et que la crise alimentaire suppose aujourd'hui beaucoup d'autres crises que ce changement peut générer. Donc, à mon sens, il faudra que ce combat, qui est un combat de résistance de toute l'humanité tout entière, soit pris en compte de façon à faire en sorte que les pays solutions comme le nôtre, les pays qui ont des ressources renouvelables, qui peuvent bien contribuer à ce changement climatique, à la lutte contre le changement climatique, que ces pays soient soutenus dans leurs efforts pour que ceux dont ils disposent puissent effectivement bénéficier à cette lutte-là. Et donc, moi, je crois que c'est une conjonction d'efforts qu'il faudra avoir, au-delà, bien sûr, des textes qui peuvent être bien signés. Trop peu de textes ont été d'ailleurs exécutés à travers le monde. Ce qui est bon, c'est de considérer que le changement climatique est une constance, c'est une réalité. Et donc, il faudra que l'humanité tout entière puisse s'y préparer.
Merci, Franck Fouamba. D'un côté, il y a cette question d'indemnisation. De l'autre, ce débat qui reste d'actualité, la sortie des énergies fossiles, question qui n'a pas été tranchée lors de la COP 27. Comment, à votre avis, faut-il comprendre la position des pays du Nord, les grands pollueurs comme on les qualifie? Ils demandent aux pays de s'engager dans la transition écologique lorsque eux-mêmes semblent ne pas être prêts, n'est-ce pas, à amorcer le processus d'abandon des énergies fossiles. Comment vous comprenez cette attitude, Franck Fouamba?
Guy, cette histoire de Sharm el-Sheikh, mais c'était du tourisme. c'est un bal, un autre bal des hypocrites. Vous savez que depuis Rio, depuis le sommet de Rio, les pays du monde sont dans une hypocrisie à laquelle ils doivent mettre fin. Comme vous avez dit. Un, l'Afrique, il est établi qu'elle pollue le monde autour de environ 4%. Prenons 4% divisons par la cinquantaine de pays. Ça veut dire que les pays comme la RDC polluent à quel pourcentage? Déjà, la RDC est un pays solution. À Chamel Cher, les gens se sont retrouvés dans le Regain, ou les pays du Nord, comme vous avez dit, ils disent, OK, aux pays du Sud, écoutez, ne polluez pas, laissez-nous polluer, et puis nous allons vous aider à avoir à vous donner ce que nous pouvons vous donner, et non pas ce que vous méritez. Parce que pendant que les gens sont à Chamecher, déjà des mois avant, l'Union européenne, à cause de la guerre en Russie, ne sachant pas se ravitailler en charbon, a triplé ses commandes de charbon en Afrique du Sud. Vous triplez les commandes de charbon en Afrique du Sud et vous demandez à l'Afrique du Sud de ne pas utiliser le charbon. C'est de l'hypocrisie. Vous allez en Arabie Saoudite. Vous demandez à l'Arabie Saoudite d'augmenter sa capacité de production de pétrole. Vous dites à la RDC, non, vous n'exploitez pas le pétrole, gardez les gorilles que nous allons aller visiter au Rwanda pour payer le Rwanda qui tue les Congolais, et puis nous allons fabriquer les véhicules électriques qui vont circuler à Kinshasa seulement, ou à Lubumbashi, alors que les Congolais ont besoin des routes. Les Congolais n'ont pas besoin d'aide. Je ne vais pas parler d'autres pays aigus. Je parle de la RDC, comme Marcel venait de le dire. Que gagnons-nous de ce bal d'hypocrite? Nous devons arrêter. À un moment, moi, je me dis, il faut arrêter d'aller à ces histoires. S'enfermer à un moment comme les Japonais s'étaient enfermés afin de développer des grands conglomérats et développer le pays. S'enfermer à un moment comme la Corée du Sud l'a fait afin de nous développer. Parce que pendant qu'on nous dit, par exemple, on dit au Congo de ne pas utiliser le pétrole, de ne pas exploiter le pétrole. Du Graben Albertine, de l'autre côté du lac Albert, il y a l'Ouganda qui a dit en 2025, le Rwanda va exploiter le pétrole avec Total Energy et les autres. Pendant qu'on demande à la RDC, on dit non, vous voyez par exemple Yinga, il ne faut pas développer, chercher les mini-projets qui font ça parce que, n'allez pas parce que dans les parcs, pendant ce temps-là, nous avons les pays comme l'Ouganda qui sont en train de construire des grandes centrales hydroélectriques dans des parcs. Parce que c'est de l'énergie renouvelable. La RDC doit cesser l'hypocrisie. Je pense que le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a donné une ligne de conduite. Sur ce point-là, la warrior du gouvernement, Eve Bazaïba, est une fidèle porte-voix, non pas seulement du chef de l'État, mais de tous les Congolais. Nous n'avons pas besoin d'aide. Nous avons besoin du win-win. Nous avons besoin de développer nos routes. Nous avons besoin de construire les écoles.
Merci Franck Fomar.
Nous n'avons pas besoin d'aide. Et pour le faire, nous n'avons pas besoin d'avoir du carburant qui coûte trop cher ici chez nous, parce que nous l'importons alors que nous pouvons produire du carburant. Ce qu'il faut, c'est ceci. Quand on survole la RDC, prenez l'avion de Kinshasa à Goma, vous allez voir la forêt. Prenez l'avion de Barcelone ou de Madrid pour aller à Paris, vous voyez les villes partout. Nous sommes un pays vierge. Nous devons développer, nous devons ignorer.
Merci Franck Fomar.
C'est un bal d'hypocrite.
On a compris.
C'est un bal d'hypocrite. La RDC là ne doit pas être victime de la pollution des pollueurs qui ne font rien. Et puis, nous nous demeurons pauvres parce que les véhicules électriques, on va les exploiter où?
Merci Ibou Diouf. Quels sont les obstacles qu'il faut, n'est-ce pas, élaguer pour la réussite de cette transition écologique?
Alors, mon cher, mon collègue, mon confrère l'a dit tout à l'heure, il a parlé de balais d'hypocrite, moi j'allais parler de banquier de Russes, parce que tout simplement, quand on parle du principe du PPP, pollueur-payeur, autant pour moi, selon ce principe pollueur-payeur, les pollueurs doivent supporter les coûts engendrés par la pollution, ce qui résulte généralement de cette activité, de leur activité, y compris le coût des mesures prises pour intervenir et souvent combattre ces pollutions. Mais le problème est cette question n'a jamais été respectée et que nos autorités aujourd'hui peinent à s'imposer sur la scène internationale. Il a tout à l'heure parlé de tourisme, mais je pense qu'aujourd'hui, il est temps que les autorités africaines puissent encore une fois se montrer beaucoup plus intransigeantes par rapport à cette question. du changement climatique. On l'a évoqué récemment lors de ce rendez-vous de Sharm el-Cheikh. Mais souvent, quand on évoque cette question, on parle des pays vulnérables. Et du coup, on pense automatiquement aux États insulaires. Ce sont généralement également ces pays qui sont submergés par le niveau de la mer. Et si jamais ça dépasse les 1,5 degrés Celsius, quelque chose comme ça. Mais également, il y a les pays africains qui subissent énormément cette situation. Le continent africain à elle seule donc représente seulement 4% des émissions de gaz à effet de serre. Mais il y a eu généralement des pays où on a de graves inondations, au contraire des sécheresses, qui ont complètement aujourd'hui perturbé l'agriculture. Vous savez que dans beaucoup de pays africains, l'agriculture occupe une place de choix. Et c'est le secteur aujourd'hui le plus éjosir par le réchauffement climatique, en particulier par les pays en développement, où elle occupe une place importante dans l'économie nationale. Donc la disponibilité de cette eau qu'on évoque souvent et qui constitue la qualité de l'irrigation des cultures constitue généralement l'un des enjeux majeurs, puisqu'il semble que l'agriculture pourra s'adapter en fonction des résultats que les spécialistes vont nous donner, vraiment par rapport à cette question du changement climatique. Mais aujourd'hui, mon confrère l'a dit tout à l'heure, quand il s'agit maintenant de ces commissions européennes, je dirais des pays de l'Occident, qui sont chargés d'élaborer des propositions, ils ne regardent que ce qui les arrange. Donc c'est à nous, Africains, aujourd'hui, de saisir la balle au rebond et de dire c'est le moment d'arrêter, puisqu'on ne peut pas continuer à subir ou bien à payer pour des pots vraiment qu'on n'a pas cassé, si je peux m'exprimer ainsi. Donc on se rappelle également de ce rapport du 15 juillet 2021 qui avait conclu que dans l'ensemble des pollueurs payeurs, et bien compris des degrés divers, les différentes politiques environnementales de l'Union européenne ont été respectées, mais j'avoue que c'était juste une manière de maquiller la réalité. Merci. Aujourd'hui, je pense que il est important, de, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'avoir une autre rencontre. Les Africains doivent se réunir avant vraiment de participer à ces événements internationaux pour pouvoir peut-être parler d'une seule voix et montrer à l'opinion internationale que c'est un continent qui existe et qui subit vraiment les contre-coups de cette pollution qui affecte l'humanité tout entière.
Merci. Une petite pause. On les écoute, ces collectifs de musiciens américains. Ils avaient chanté en 1985 We Are The World.
Thank you.
Are the Road, chanson caritative, un classique composé en 1985 par Michael Jackson et Lionel Richie et interprété par un collectif de musiciens américains. À travers ces chansons, ils avaient manifesté leur solidarité avec l'Éthiopie où s'est glissée une grande famine qui avait fait des milliers de morts. Je rappelle que nous avons dans cette émission Marcel Ngoy, journaliste et éditeur du journal La Prospérité, publié à Kinshasa. Frank Fwamba, fondateur et directeur général de la revue Mining News. Il est fondateur aussi de l'ONG Ressources Naturelles pour le Développement et aussi co-donateur de la campagne Touche pas à mon cobalt. Il intervient depuis Lubumbashi. Et en ligne depuis Dakar, capitale du Sénégal, Ibou Diouf, journaliste à la télévision Futur Média du groupe Futur Média, émettant de Dakar. Le processus électoral a aussi défrayé la chronique cette semaine en RDC. En effet, la CENI amorce un tournant crucial du processus électoral dès le mois de décembre prochain avec l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs en RDC. Le président de la CENI l'a annoncé au cours du cadre des concertations avec les partis et les groupements politiques mercredi 23 novembre au Palais du Peuple. En même temps, Denis Kadima a annoncé la fin des épreuves de la cartographie électorale et la publication du calendrier électoral ce samedi 26 novembre. Près de 50 millions d'électeurs sont attendus à cette opération, a-t-il précisé. Marcel Ngoy, comme nous venons de le dire, la CENI amorce un virage important du processus électoral en annonçant l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs. Certains experts aujourd'hui sont convaincus que les élections ne seront pas organisées en 2023 parce que, selon eux, le temps qui reste ne pourra pas permettre à la CENI de réaliser toutes les opérations préélectorales qui restent. Et il faut notamment constituer les fichiers électoraux avec toutes ces étapes, enrôler les électeurs. En 2023, c'est 50 millions d'électeurs qui sont attendus. Il faut fiabiliser ces fichiers avec l'audit interne et externe. Il faut élaborer les projets de la loi sur la répartition des sièges à partir, n'est-ce pas, des données issues de l'enrôlement. Il faut commander des matériels sensibles et les déployer. Pour ces experts, donc, en 12 mois, il ne sera pas possible pour la CENI de réaliser tous ces préalables. Cependant, la CENI, de son côté, rassure que le délai sera tenu. Comment vous analysez cette situation, Marcel Ngoy?
Oui, dans notre pays, nous avons aujourd'hui l'émergence d'une nouvelle race de politiciens qui veulent une chose et son contraire à la fois. Tantôt on a besoin d'élections pour assurer l'alternance au sommet de l'État, pour permettre qu'il y ait un changement pacifique à la tête du pays, offrir au peuple l'occasion de s'exprimer. Tantôt on veut investir dans le chaos, on presse l'apocalypse, on voit les choses qui vont dans le glissement, dans la procrastination. Nous pensons que nous, au Congo, nous devons faire l'inversion de valeur. C'est-à-dire que arriver à comprendre que cette inversion de valeur-là, qu'on veut faire en permanence, n'est pas de nature à arranger, à normaliser le processus électoral dans notre pays. Je voudrais, dans ce contexte-là, partager l'optimisme du président de la CENI, qui, lui, dit avoir réuni les conditions et être prêt à faire quelque chose pour que les élections soient tenues dans les délais. Alors, quant aux disciples de la cacophonie, ceux qui veulent absolument qu'on puisse développer l'alchimie de ce qu'on appelle aujourd'hui la confusion, c'est vrai qu'on ira aux élections, mais nombreux n'investissent pas dans l'organisation des élections. Ils veulent investir dans la contestation des résultats de ces élections.
Et vous pensez qu'avec toutes ces opérations préélectorales qui ont été citées ici, vous pensez qu'en 12 mois, on peut arriver à réaliser cela et organiser des élections en décembre de l'année prochaine?
J'ai toujours considéré que dans ce pays, c'est toujours la volonté politique. Le jour qu'on a la volonté politique, que les acteurs, aussi bien politiques que la société civile, sont engagés dans un processus et que le peuple congolais tout entier est derrière ce processus, on peut y arriver. Mais si on ne veut pas d'élection, on peut tirer des choses en longueur. Souvenez-vous des élections 2016. Mais ça faisait des années qu'on n'avait jamais d'élection dans notre pays. Qui avait fait en sorte qu'on n'ait pas d'élection en 2016, dans toutes ces années-là? C'est toujours la même classe politique. En 2011, il y a eu...
Allô, Marcel Ngoy, apparemment nous l'avons perdu. Franck Fwamba, lors du processus électoral de 2006, il y avait 25 millions d'électeurs. Il a fallu 13 mois pour les enregistrer afin de constituer le fichier électoral. En 2011, on a enregistré 32 millions d'électeurs en 15 mois. Et en 2018, 18 mois pour enregistrer 40 millions d'électeurs. Mais en 2023, la CENI prévoit d'enrôler 50 millions d'électeurs en seulement 3 mois. Est-ce réaliste, Franck Fwamba?
Merci, Guy. Je vais parler... D'abord, je ne fais pas de la politique, je ne suis pas politicien, elle ne m'intéresse pas. Je suis dans les ressources naturelles. je veux parler en tant que Congolais, pas ce moment.
Voilà, apparemment lui aussi est parti. Ibou Diouf, est-ce que vous êtes là?
Oui, je suis là, oui.
Voilà, les processus électoraux en Afrique ont toujours, n'est-ce pas, fait couler beaucoup d'encre et de salive. Et si ce ne sont pas des questions opérationnelles ou des planifications qui font débat, c'est la dimension politique qui divise. Et en RDC, au-delà des questions opérationnelles et des planifications, il y a la dimension politique avec ces débats au sein de l'opposition et de la société civile sur la crédibilité des institutions chargées de gérer les élections, à savoir la CENI et la Cour constitutionnelle. L'opposition à une frange, n'est-ce pas, de cette société civile exige d'être incorporée au sein de la CENI et exige la recomposition de la Cour constitutionnelle. Et vous pensez qu'il est possible de répondre favorablement aux exigences de l'opposition et de cette frange de la société civile sans que cela ne puisse retarder l'organisation des élections?
Oui, moi j'ai aimé ce que je peux appeler l'optimisme de la CENI, puisque quand on suit la communication qui a été avancée par les responsables, qui estiment que même si, entre guillemets, on reste un peu pessimiste par rapport au respect du calendrier, puisque vouloir incorporer plus de 50 millions d'électeurs en 3 mois, c'est très ambitieux. Mais bon, comme ils ont peut-être donner les gages qu'ils vont essayer. Attendons de voir ce que ça va donner. Parlant de l'opposition et certains experts de la société civile qui redoutent un report de scrutin, moi j'avoue que c'est quelque chose qui se passe partout dans les pays africains, puisque généralement c'est pas un processus, si j'ose dire, qui est planifié. Généralement les gens attendent et décident de faire d'un seul coup. Ou bien de mettre sur place un processus pour permettre aux différents candidats qui sont intéressés d'aller à l'élection. Mais les activités préliminaires ayant été enclenchées avec parfois des retards pour permettre à cette commission électorale de dévoiler que ce soit la stratégie, le budget escompté pour aller vers les opérations avec un calendrier électoral bien maîtrisé, ça pose souvent problème en Afrique. Quand on prend l'exemple aujourd'hui de ce qui se passe en République démocratique du Congo, beaucoup se posent la question, est-ce qu'il y aura des élections avant 2023? Donc l'opposition, quant à elle, émet de doutes, mais le pouvoir se veut rassurant, comme à travers la Commission électorale nationale indépendante, qui prévoit malgré tout de lancer cette opération. Essayons peut-être, attendons de voir ce que cela va donner.
Merci.
Mais généralement, quand on évoque cette situation en Afrique, généralement, c'est compliqué et souvent, l'opposition n'est jamais satisfaite. Et le plus souvent, il part à l'élection avec un fichier qui n'a pas été validé. Généralement, c'est des doutes qui sont souvent émis et ça donne souvent ce qu'on a l'habitude de voir avec des contestations à chaque fin de processus électoral.
Merci. Marcel Ngoy, est-ce que vous êtes là?
Je suis là.
Voilà, oui. On est à la fin de l'émission, hein, votre conclusion. Donc vous êtes optimiste, vous pensez comme les dit aujourd'hui la CENI que le délai sera tenu et que les élections seront organisées en 2023.
Je souhaite vivement qu'on organise les élections dans les délais et que même s'il peut y avoir quelques impéritions, qu'on arrive quand même à accepter qu'il y ait élection afin de sanctionner positivement ou négativement ceux qui dirigent en vertu des mandats, en vertu des bilans qu'ils auront réalisés.
Franck Fomba, est-ce que vous êtes là? La réalisation m'a dit que vous êtes là. Vous êtes là?
Je suis là, Guy.
Voilà, il y a toutes ces inquiétudes que certains observateurs sont en train d'exprimer par rapport au temps qui reste avec toutes les opérations préélectorales. Et ces experts pensent qu'il sera difficile de tenir les délais. Est-ce que vous pouvez réagir par rapport aux inquiétudes exprimées par ces experts?
Merci, Guy. Je ne veux pas réagir par rapport aux experts, hein, mais je vais réagir par rapport au processus électoral. Depuis 2006, il est prévu que le processus électoral devait contenir la présidentielle, les législatives et les élections locales. Ça va faire plus de 10 ans, bientôt 20 ans, qu'on n'a jamais tenu les élections locales. Moi, je pense que le réalisme oblige ceci. Nous ne devons pas être pressés pour faire les mauvaises élections ou faire les élections précipitées en plaisant à la communauté internationale si on veut consolider la démocratie en RDC. Voici le conseil que je donne à M. Kadima et à tous les politiciens. M. Kadima doit se considérer comme président de la CENI, de la RDC, non pas de la CENI de la communauté internationale ou mondiale. On ne peut pas faire les élections dans un pays qui se respecte sans avoir identifié les Congolais. Quand il dit 50 millions, c'est par rapport à quel recensement que lui a fait. La deuxième chose, le recensement. La troisième chose, on ne peut pas continuer à faire les élections des cycles électoraux partiels alors que nous avons besoin, comme j'ai dit là, des élections locales. On ne les fait jamais. Notre démocratie en deux temps. La quatrième chose, le pays a besoin de sécuriser l'est de la RDC parce que nous sommes dans un système où la présidentielle, par exemple, le président est élu au suffrage universel direct à tour unique et par la majorité simple. Sécurisons le territoire, c'est le plus important. Soyons sûrs que les Congolais de la diaspora doivent voter, parce que ça fait plus de 10 ans. Ils ne votent pas, ce sont des citoyens, ils doivent participer. Soyons sûrs qu'on fait les élections totalement, le cycle est total. Qu'on commence cette fois-ci, non pas par la présidentielle et législative, mais qu'on commence par les élections locales. Soyons sûrs qu'on a fait le recensement. Gu, sans recensement, M. Kadima va chercher à plaire à la communauté internationale. Pour le moment, les conditions ne sont pas réunies pour faire une élection qui consolide la démocratie en RDC.
Merci, c'est la fin de cette émission. Merci à vous tous d'avoir accepté de participer à cette émission. Merci à Marcel Ngoy, Franck Fouamba et Ibou Diouf. Merci aussi à Jean-Noël Mokondo qui était à la technique avec la participation d'Hervé Voka et Christian Lomombe DJ Daddy sous la supervision d'Alex Essomé et Martin Sobujangwe. À la réalisation, Lesse Walassa et à la présentation, Guy Maté. Merci et bon week-end sur Radio Capi. Cette émission sera rediffusée ce soir à 22h, heure de Kinshasa. Vous pouvez aussi la retrouver sur le site radiocapi.net. On se sépare avec Mbonge Mbonge, Datfamo Evoloko Lai Lai, et on se retrouve le samedi prochain.
Bangapelo pola yawe.